I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand contrôle.
Grand contrôle.
Libre, libre.
Libre et curieux.
Goedemiddag.
Dobardan.
Labas.
Et bonjour à tous, c'est Casimir pour L'Europe est une fête. Aujourd'hui, je suis entouré de Ruben, qui représente les Pays-Bas, de Denis, qui représente la Croatie, et de Ruta, qui représente la Lituanie. Bonjour à tous, ça va bien ?
Ça va.
Très bien.
Très bien.
Très bien. Alors, le très bien, le premier très bien à ma gauche était Ruben. Le très bien de Denis, on va l'entendre tout de suite.
Très bien.
Voilà, et le très bien de Ruta, c'est la voix féminine.
Trop bien, la bégare.
Première fois hein, qu'on est avec plus d'hommes que des femmes.
Oui, c'est vrai, je me suis fait cette remarque aussi. Ça y est les gars, on reprend le pouvoir.
Finalement, yes. Vraie émission aujourd'hui.
Sérieuse.
Ruben, tu nous apportes un petit cadeau, tu as apporté un petit cadeau à Denis aujourd'hui.
Oui, j'ai amené le maillot 98, le maillot officiel de l'équipe de la Croatie,
oh,
qui aurait dû gagner la Coupe damier. Du Monde. On avait tout à attendre la finale. Hein, 98 Pays-Bas Croatie, mais c'est devenu France-Brésil, c'est pas pourquoi.
Un peu ringard quand même les couleurs, tu vois, les dégradés.
Il manque un peu de couleurs, de vert.
Moi j'aime beaucoup les maillots années 90 parce que c'est pas si parfait. Oui. C'est vraiment, c'est encore un peu, c'est bien dans le côté moche.
On a l'impression que ça sent encore la transpiration qui n'a pas été lavée, quoi.
Oui, mais
ça c'est vrai.
pour moi, c'est peut-être le plus beau. C'est un design italien aussi. Hein.
Oui, oui.
Il y a un côté un peu.
C'est un design italien. Ouais, il le vend le truc. Tu vas essayer de le montrer à l'image pour ceux qui sont en live.
Et Ruben, c'est quand le maillot lituanien?
Prochaine fois.
Promis.
Quand vous ferez une demi-finale contre la France.
En basket.
Pour te dire, oui. c'est pas une blague, hein, je l'ai vraiment trouvé, on a trouvé dans les coulisses du Stade de France où je travaillais, et on m'a dit, bon, toi t'es celui qui aime le plus de foot, alors...
Ah mais c'est un vrai, il a été laissé par un joueur, celui-là.
Bon, il n'a pas été porté, mais probablement c'était un maillot en trop que l'équipe a laissé oublier, ou je sais pas quoi.
Voilà. Alors là, c'est un maillot qui a de l'histoire. C'est le maillot d'Avon Souker, la star de l'époque.
Espérons.
Denis, tu avais des petites questions à poser à Ruben pour commencer.
Oui, parce que la semaine dernière, j'ai dit hollandais. Alors, Casimir m'a dit si Ruben était là, il ne serait pas content.
Il n'est pas content quand on dit hollandais.
Alors, l'autre jour, il y a eu l'histoire de KLM et Air France. Alors, il y avait un journal qui titrait le Hollandais volant, le célèbre bateau pirate, le Hollandais volant. On dit aussi les vélos hollandais. Alors, je ne sais pas si là-bas on l'appelle comme ça. Et il y avait récemment aussi le salon de l'agriculture. Et parfois, quand il y a les matchs, les commentateurs disent les bataves. Alors, nous, on a aussi la batavia. Je ne sais pas si ça a un rapport. Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça?
On y va. Allez, commençons d'abord avec mon pays. Mon pays s'appelle les Pays-Bas.
Oui.
Et pas la Hollande. La Hollande, c'est la région la plus importante des Pays-Bas. C'est comme dire que la France, c'est la Bretagne ou l'Île-de-France ou l'Alsace ou je sais pas.
Donc on dit pas les Hollandais.
Les Hollandais, c'est plus facile, je pense, en France parce que néerlandais ressemble beaucoup à irlandais.
Ah.
Et toujours quand je dis que je suis néerlandais, les gens, tu viens d'Irlande? Ah non, hollandais, ok. Mais non,
ça, c'est
Hollande,
quand tu rencontres des gens pas très fortuits.
La Hollande, c'est la région la plus importante, qui dans le XVIIe siècle a fait grandir le pays, mais le nom du pays n'est pas Hollande, ce sont les Pays-Bas.
D'accord.
Et l'Hollandais volant, tu sais pas combien de fois on m'a déjà appelé comme ça, parce que c'est la seule chose qu'on connaît des Pays-Bas, j'ai l'impression.
Mais tu ne voles pas.
Bon, si tu veux, tu dis ce que tu veux, mais oui, aussi ça, c'est très français. Et batave aussi. Batave, je l'ai entendu que ici, mais batave, c'est aussi
XVIIe siècle.
Les Néerlandais qui étaient en Indonésie avec la ville Batavia, qui est aujourd'hui Jakarta.
Ah, d'accord.
Et ça vient un peu de là, mais pourquoi batave? Peut-être.
Personne ne sait. On va faire une recherche.
Néerlandais, depuis maintenant, ça fera plaisir à tout le monde.
Néerlandais, moi, ça me va.
Moi aussi, ça me va. Mais c'est plus compliqué à dire que hollandais. Ça vient moins naturellement.
Oui, parce que hollandais et c'est devenu aussi un peu un nom culte. Hein. Mm-hmm. Quand ça joue au foot, par exemple, on dit toujours Hollande, Hollande. On entend ça dans les tribunes. Mais c'est pas vrai.
Je supporte François Hollande, c'est ça. Hollande, Hollande.
Oui, oui, disons ça.
François Néerlande.
Aujourd'hui, le thème du jour, rien à voir, c'est pour l'Europe est une fête, c'est l'art d'écrire. Et je suis particulièrement bien passé pour vous parler de ce thème, puisque j'adore le rap. Et oui, Denis, fais pas cette tête, je te vois. Non, le rap est une forme moderne d'art d'écrire, même si on entend parler des rappeurs que dans les grands médias nationaux, que lorsqu'ils se croisent à l'aéroport d'Orly ou dans l'Octogone, comme vous avez pu voir avec Booba et Kaaris qui ont envie de se taper en permanence. Les rappeurs sont aussi des artistes de l'écriture, rappelons-le. D'ailleurs, tout comme les comédiens de stand-up, tout ça, ce sont des formes modernes d'écriture. Et je me suis posé la question, est-ce que les gens qui tweetent, les tweetos, sont aussi des écrivains modernes? Est-ce qu'on peut parler d'art d'écriture moderne? Je vous pose la question. À vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les 280 caractères.
Non.
Tu exprimes une idée?
Non.
Non, une pensée, une opinion?
Non, c'est un avis. Ça n'est pas une réflexion.
Je suis là pour dire oui, je pense.
Donc non.
Mais ça change. L'art d'écrire, ça évolue. Non.
Mais c'est ce que je pense aussi.
Oui.
Donc c'est peut-être une forme d'évolution, un peu brutale peut-être.
Un chansonnier, un parolier, par exemple, les chansons, il y a toujours eu des chansons qui nous ont touchés, qui nous ont affectés en très peu de paroles, en 2-3 minutes, la personne réussit à faire une tranche de vie, ça nous touche, ça nous parle. Mm-hmm. Mais si on parle de réflexion, de personnes qui ont étudié, qui font un livre de 200, 300 pages, quelque chose de construit, ça n'est jamais comparable à un tweet, à une très belle chanson, à...
Est-ce que tout c'est pas l'art de synthétiser une idée?
Synthétiser une idée, là, tu me fais très peur. Hein.
c'est synthétiser... Est-ce que l'art de faire du buzz, on pourrait pas le considérer par le tweet?
Non, c'est trop simpliste. Parce qu'il y a de la différence entre simple et simpliste.
Je pense qu'on va prendre du recul sur cette question avec les années. C'était une question piège, mais Denis s'en est très bien sorti. On va pas forcément parler des formes modernes d'écriture et d'art, mais on va voyager en Europe avec le thème l'art d'écrire. On commence tout de suite en partant aux Pays-Bas avec toi, Ruben.
Souvent, la première phrase d'un livre a un rôle très important. Elle veut inspirer. Il y en a beaucoup qui sont devenus très connus. J'ai regardé un peu sur Internet et j'ai trouvé cette première phrase de Anna Karenina, écrite par Tolstoï. Mm-hmm. Tu l'as lu peut-être?
Oui.
Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon.
C'est beau. Ouais, ça c'est
très joli.
Ouais, bon, mon livre préféré par contre, écrit par un Néerlandais, parce que on va quand même parler des écrivains néerlandais, a aussi une phrase cool pour commencer. Alors on y va.
Allez.
Sjaan Mulder, Tata Sjaan pour les amis, mettait une assiette sur la table. Voilà un pain saucisse. C'est du pain avec une saucisse dedans.
Pourquoi? Et pourquoi c'est ta phrase préférée?
On y va, je vais t'expliquer.
C'est excellent le parallèle avec toi.
Cette citation vient du livre « Ce n'est pas moi qui te l'ai dit » de l'écrivain néerlandais Marcel van Roosmalen, écrit en 2006. Peut-être, Ruta, tu as déjà compris quel sujet est traité pendant le livre?
Non, pas encore, vas-y, dis-moi.
Bah, les saucisses, les pains... Ça va parler gastronomie?
La bouffe!
Ouais, la malbouffe.
En fait, dans ce livre, l'écrivain suit pendant un an son club de foot préféré, le Vitesse Arnhem. Pour les fans de foot, peut-être vous connaissez.
Oui.
Il raconte juste ce qu'il voit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un écrivain, mais ce n'est pas un journaliste. Il est écrivain, il est grand fan de son club, mais il va regarder le club d'un point de vue extérieur. C'est un intello qui rentre dans le monde de foot. Et le résultat est une histoire incroyable, vraiment incroyable. Pas pour le succès du club, c'est ça qui est incroyable aussi, parce qu'il termine 11e pendant cette saison. Mais tout ce qui se passe pendant l'année, des fêtes, des joueurs virés, des incidents entre joueurs et journalistes, un amateurisme vraiment incroyable pour
le
business.
Donc en fait, il est en immersion avec dans le club, c'est ça?
C'est ça. Et lui, il est très, très, très cynique. Dans tout ce qu'il fait, il est cynique. Mmh. Alors, ça crée un type d'animation, un type d'atmosphère entre tout le monde c'est vraiment du jamais vu. Il est du jamais lu, franchement.
Du jamais lu.
Du jamais lu. Moi, quand j'ai lu le livre pour la première fois, et c'est un livre de 250 pages, j'ai rigolé vraiment chaque page. À chaque page, ce qui se passe, tu dis, mais c'est pas possible ce qui se passe. J'ose même dire qu'il a changé toute la littérature du sport aux Pays-Bas.
Une petite question, est-ce qu'il est traduit, ce livre ?
Non.
Qu'on puisse rigoler, non ?
Non, bah, parce que c'est...
T'as du travail alors, Ruben.
Oui, bah, je vais revenir sur ça après. D'accord. Mais ce que, moi, je trouve ça vraiment une performance non négligeable, parce que là, on parle de Twitter, est-ce que ça évolue, la littérature et tout ça. Mais par exemple, quand on parle de travailler dans le sport, et ça fait maintenant quelques semaines que je viens ici pour parler, et j'ai toujours pas parlé de mon boulot, mais de temps en temps, je dois aussi interviewer des sportifs. Mm-hmm. Et c'est tellement difficile, et surtout les footballeurs. Ils ne veulent jamais rien dire, ils n'ont jamais envie.
Peut-être et tous qu'ils
les, savent pas. Et tous les livres, moi-même, il y a des gens derrière qui disent ce qu'ils doivent dire. Oui, et tous les livres qui sortent aujourd'hui...
Il y a du media training derrière. Quoi.
C'est ça. Et tous les livres sur le sport et surtout le foot et les biographies...
Sont aseptisés souvent.
Tout est déjà fait, on lit l'image qu'on veut savoir, mais pas ce qui se passe vraiment.
C'est de la
vraiment.
Communication plutôt que de la littérature.
Mais ce livre, c'est complètement le contraire. La réaction du capitaine de vitesse est inoubliable, franchement. Theo Jansson, il s'appelle comme ça, et c'est un joueur qui est vraiment considéré comme un joueur de foot très 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 bon. Sauf qu'il vient de la génération pour les fans type Wesley Sneijder, Arjen Robben, il était vraiment au même niveau quand il avait type 16-18 ans. Mais il était trop intéressé par la bière, les cigarettes, il a fait la fête et tout ça.
Mais c'était normal.
Et quand il a réagi par rapport à la couverture du livre, il a dit « Tous les joueurs le trouvaient un livre de merde. Et tous les passages qui parlent de moi ne sont pas bien pour mon image. Ces passages étaient complètement nuls. En plus, le livre physique est d'une qualité lamentable. Physiquement, franchement, ça tombe tout de suite. Ça, c'est... Tout dans le livre, c'était pas bon. Imagine ça comme pub pour un livre. Et le livre, après, est vendu énormément... énormément de fois.
Oui, c'est un capitaine énervé, quoi.
Tout à fait. Mais maintenant, on est 12 ans plus tard, parce que le livre a été écrit en 2006, il a demandé au même auteur, alors ce capitaine, d'écrire sa biographie. Il est sorti il y a 3 semaines et est depuis le livre le plus vendu aux Pays-Bas. Et ce livre s'appelle Le Gros Prince. Magnifique. Et j'ai amené la couverture pour vous. Bon, je ne sais pas si les gens peuvent voir, mais on voit à droite, on voit le joueur qui a bien à manger depuis. Et à gauche, on voit l'écrivain qui est
bien
aussi
mangé depuis.
Qui a bien mangé depuis toujours, je pense.
Ça, c'est le barbu là, c'est le joueur. C'est le joueur
qui est maintenant ex-joueur.
Oui, bah ça se voit. Hein.
Ça se voit. Ouais. Et à gauche, mais surtout.
Ça c'est l'écrivain.
Ça c'est l'écrivain, voilà.
D'accord.
Et
je te laisse apprécier ses beaux physiques plus tard.
On va pas dire que, ouais, ça fait pas du tout rêver, ça fait pas du tout vendre, mais ça vend énormément. C'est ça ce qui est drôle. Et ce qui est incroyable, il se passe strictement rien dans le livre. Vraiment rien. Il veut pas parler. L'écrivain cherche partout des anecdotes, mais comme il écrit tellement bien et drôle, on continue de lire. Et c'est ça le point fort de cet auteur. Il arrive avec son style vers un public très très grand. Et c'est ça, bon, on en a discuté.
Et celui-là, c'est du talent, ça. Tu l'as traduit, celui-là ?
Non plus. Bon, ça fait 3 semaines, mais je veux bien le traduire. Il y a même beaucoup de gens qui ne lisaient pas du tout avant, qui ont commencé à lire grâce à son style d'écrire. Il y a des gens, notamment les fans de foot, qui cherchent peut-être pas un livre super bien recherché, mais quand on parle des choses comme...
Qui les intéresse.
Juste, il est dans un tel bar, il parle avec quelqu'un, il observe super bien.
Ils parlent de leur quotidien.
Moi,
quoi.
Je trouve ça vraiment l'art d'écrire. Parce que, bien sûr, je parle maintenant comme... avec un peu d'ironie, mais le livre est tellement bien écrit, c'est incroyable, je trouve ça génial. On ne s'ennuie jamais pendant le livre, il parle des choses les plus banales du monde, mais pour moi, c'est vraiment l'art d'écrire ça. Et je montre pourquoi un tel livre n'existe pas en France.
Ah.
Je veux bien défier les écrivains français. Suivez un club de foot pendant un an et observez vraiment bien. Il y a des histoires partout, il faut juste les trouver. Peut-être un club comme Lens, par exemple, où il y a quand même aussi assez de soucis de temps en temps, ou je ne sais pas, Marseille, ça pourrait être très bien aussi. Il faut bien sûr avoir les gens qui sont assez ouverts d'esprit, qui laissent passer, parce qu'il se passe plein de choses.
Le livre de foot que j'avais lu, c'était sur Lilian Thuram, c'était 12 juillet 1998, et il racontait un petit peu son parcours jusqu'à cette date, qui était la date du fameux doublé contre la Croatie d'ailleurs, on y revient. Mais sur le milieu des supporters de foot, j'ai jamais eu, pourtant...
Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt en France, est-ce qu'on ne fait pas plutôt des vidéos, des suivis comme ça, des petits reportages et pas de livres ?
On a Les Jeux dans les Bleus qui est quand même très bien.
C'est vrai.
Cet été, on a eu...
Un documentaire...
On a eu aussi le documentaire sur l'équipe qui a gagné encore les champions, qui a suivi les champions du monde,
Qui était
selon moi, très bon. Moi, je n'étais pas convaincu. Les yeux dans le bleu, c'était très bien.
Oui, bah,
et l'autre
la
était très régissé.
La ouais, génération voilà. Les yeux dans le bleu, donc c'était un documentaire sur l'équipe de France 98 quand ils ont gagné la Coupe du Monde, qui suivait leur parcours. Et là, on a refait la même chose cette année quand ils ont gagné.
Mais Ruben a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il ne se passe rien, mais l'écrivain, dans tout son talent,
c'est ça.
Nous met. Et puis rien, c'est quoi? En fin de compte, la vie, notre vie, c'est rien, j'ai envie de dire.
Bon, alors, on va peut-être écouter la musique et on va en discuter pendant la musique, Denis. Parce que là, on est parti sur rien, c'est quoi?
Oui, ça devient la philosophie aujourd'hui, et tant mieux.
On est parti du foot à la philosophie. On est bien, les gars. Sur l'art d'écrire, on est très bien. Là.
L'écriture.
J'ai choisi, là, pour un morceau aussi du rap, faire honneur à Casimir.
Allez.
Et ça part un peu du même principe. Il joue très bien avec les mots. Le groupe s'appelle The Jeugd van Tegenwoordig, ce qui veut dire les jeunes d'aujourd'hui.
Ça, c'est gangster, ça.
Et la chanson s'appelle Sternstoff, ce qui veut dire la poussière cosmique.
Allez, un petit peu de poussière cosmique, on y va.
Kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibberleen was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik brei. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij, ze willen een handtekening.
Kaleidoscopische oogst. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpip na. Een golf neemt de afstand van je hemel lichaam. Ze is van spek. Een aardse klacht, hoe losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, intermagalactisch. Sorry als ik overdrijf, ze is als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik als in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loezo in de sky met dames om mijn nek. Bitch, dames om mijn nek. Loezo in de sky met dames om mijn nek. Dames om mijn nek. Dames om mijn nek. Vroeger was Jan Jejo alleen nog maar Jan. Geen rap, centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke
d'accord.
soort drank. Mijn
probleem is ça, c'est du rap. Ok, très bien.
Je me disais bien qu'on se sent bien entre les mecs, on parle de foot alors que c'est l'art d'écrire. Robin, tu expliques?
Oui, oui, oui. Encore une fois, moi, c'est fait exprès, bien sûr. Je peux parler des grands écrivains néerlandais qui arrive jamais en France parce qu'il y a trop de bons écrivains français. Mais j'étais il y a quelques semaines, j'étais à Gilbert Joseph pour l'anecdote, et il y avait les Néerlandais se trouvaient parmi les pays du Balkan avec la Croatie, la Serbie et la Suède. Alors on a un très beau Balkan.
Il était classé parmi les pays du Balkan.
Balkan, oui. Mais non, mais ce que je veux dire pour ça, c'est pour ça ce que je trouve intéressant dans le sport. On peut regarder le sport juste comme si on parle foot, un ballon qui va dans un filet et c'est tout. Mm-hmm. Mais en fait, moi, je suis le sport parce que je trouve tout l'aspect culturel, c'est ça. Ce qui est très intéressant.
C'est vrai.
Et on peut. Et c'est pour ça que j'ai choisi.
L'aspect culturel et littéraire, tout à fait.
Oui, Denis. Le football, un match de foot, c'est comme une vie. Il y a tellement de tragédies. Il y a tellement de tragédies et d'injustices.
Ah, mais non, je n'ai pas d'accord.
Mais Denis, rappelle-moi, rien, c'est quoi déjà?
Non, c'est une bonne question. Il y a tellement d'injustices qui se passent lors d'un match de foot, c'est comme dans la vie, on se dit mais ça c'est injuste, et sur le terrain il arrive la même chose. C'est pour cette raison là en fait qu'on est tellement touché par ce sport. Et si je peux me permettre,
Ruben
le sait sans doute, vous savez d'où vient l'art du dribble?
Ah
non.
Eh bien, c'était les joueurs noirs en Amérique latine qui devaient éviter les joueurs blancs sous risque de se faire maltraiter par la foule après le match. C'est là où le dribble a été inventé. Faut imaginer l'histoire, ce que c'est quand même. Hein.
Okay.
Ah, le foot, c'est plus que du foot,
et j'ai envie de dire. Pour te dire, il y a quelques heures, il y a encore une énorme histoire qui est sortie sur Marseille dans les années 90, qui a acheté tout. Qui a même empoisonné des adversaires.
Oui.
Le foot, c'est la vie.
Après, alors, je suis d'accord avec Denis, parce que nous, pour nous, c'est pas le foot, mais on dit aussi que le basket chez nous, c'est plus que le sport.
Ah voilà.
Je suis d'accord. On s'est mis d'accord.
Le sport, c'est la vie, on y est.
L'art d'écrire. Donc, merci pour vos interventions. On va partir avec Ruta et on va revenir un peu sur le thème.
Du coup, moi, je vais vraiment parler de l'art d'écrire, pas de sport. Et l'art d'écrire m'inspire deux questions. La première question, c'est quoi l'objectif ultime de la littérature ? Ou l'art, d'une manière générale, on a parlé du Twitter, mais l'art, c'est quoi ? Est-ce que le but, c'est purement esthétique ? Est-ce que c'est de se prendre ? Est-ce que de déranger son observateur ? Mmh. Et deuxième question, quel est le ouvrage à présenter lorsqu'on veut parler de la Lituanie ?
Et t'as réussi à trouver des réponses à nos questions ?
Peut-être pas pour la première, parce qu'elle est quand même compliquée. Il y a beaucoup de réponses.
Oui, c'est une question à Denis, hein, tu vois.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a
rien, c'est quoi ?
Mais pour la deuxième question, je sais de quelle histoire je veux parler pour parler de la Lituanie. Encore, de quelle histoire doit-on parler ? Il faut en parler, surtout. C'est l'histoire qui a touché les États baltes, mais aussi les autres peuples vivant sous la pression de l'Union soviétique. L'histoire qui était ignorée et cachée pendant très longtemps. L'histoire qui était censée être effacée, oubliée ou tout simplement jamais racontée. Finalement, c'est aussi l'histoire qui demeure méconnue pour la plupart. Je ne sais pas pour vous, mais...
Je m'impatiente. Quelle histoire ?
L'objectif ultime de cette partie de la littérature lituanienne est si simple justement, c'est de mémoriser, de documenter ce pan de l'histoire important. Le cœur de l'histoire déclenche la nuit entre le 13 et le 14 juin en 1941 dans tous les trois pays baltes.
Ok, en pleine Deuxième Guerre mondiale.
C'est ça. Des dizaines de milliers de personnes, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées. Bref, des familles entières classées comme les ennemis du peuple sont extraites de leur maison en milieu de la nuit par l'armée soviétique et menées dans une direction inconnue pour eux. Les répressions planifiées par Staline visent surtout à éradiquer la partie intellectuelle de ces pays occupés. Donc on arrête les écrivains, les artistes, les militaires, toute personne susceptible de travailler contre le pouvoir central du régime soviétique. Et ces gens-là, ils n'ont commis aucun crime, ainsi que leurs familles sont déportées à un wagon à bestiaux vers la direction Sibérie, où ils seront soumis à la violence du nouveau régime. Et certes que l'extermination dans ces camps en Sibérie n'était pas toujours directe comme dans les camps nazis. Il n'y avait pas d'élimination systématique, mais une mort quasi certaine et progressive dans les conditions atroces. Et pourtant, à grande échelle, on ignore que parallèlement aux horreurs d'Hitler et des nazis, les soviétiques employaient les méthodes d'oppression similaires, ils avaient la même volonté de destruction identitaire et le même sadisme. Et il y a des mots qui résument parfaitement le ressenti de ces déportations massives. C'est une lituanienne survivante qui dit « Lorsqu'on était dans l'Arctique et les gens autour de nous mouraient de faim, je me rappelle ma mère demander aux gardes soviétiques « À quoi ça sert de nous amener ici jusqu'à la Sibérie seulement de nous affamer et de nous faire travailler à mort ?» Il a répondu, nous n'avons pas besoin de votre mort, nous avons besoin de votre douleur et votre souffrance.
Eh bien, pourquoi cette histoire est si mal connue finalement, Ruta ?
Je pense que parmi les explications possibles, même si les déportés ont été libérés dans les années 50, les déportés qui ont survécu, l'existence du régime de l'Union soviétique pendant des décennies assurait l'ignorance de ces crimes et surtout que sous la surveillance du KGB, les survivants ont été tout simplement réduits au silence. Et c'est qu'avec l'indépendance des pays baltes en 1991, c'est ça, qu'on commence à parler de ces histoires-là, justement.
Donc c'est au moment 91 qu'on libère un peu la parole.
C'est ça, aux gens qui
Et t'as un ouvrage qui raconte cette histoire
Justement, c'est l'ouvrage que j'ai lu pas longtemps, il y a quelques mois. Et c'est l'ouvrage qui s'appelle « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre ». De l'écrivaine qui s'appelle Ruta Šepetys.
Comme toi,
oui,
Ruta.
Oui, comme moi. Il n'y a pas qu'un seul Ruta en Lituanie. Et ce ouvrage, justement, il est traduit dans plusieurs langues, en français également. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai dit le nom en français. Et il a même gagné, je crois, le prix, un sort du prix en France dans les années 2011. Mm-hmm. Donc c'est quand même assez connu. Et c'est à la fois l'histoire d'une jeune lituanienne de 15 ans déportée en Sibérie qui, à travers de ses dessins et ses écrits, elle essaye de se vivre au froid, la maltraitance, conditions atroces. Et du documenter les expériences, en même temps, ces expériences et des gens qui sont emprisonnés dans les terres de l'Arctique. Et c'est aussi un vrai exemple de la résistance humaine dans les conditions complètement atroces.
Eh ben, écoute, oui.
L'été dernier, j'ai lu Les origines du totalitarisme de Hannah Arendt. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'elle fixe très bien, elle explique très bien les deux systèmes nazis et staliniens. Mm-hmm. Et
je connais cette philosophe.
Et on reste vraiment abasourdi de l'horreur et du système qui se met en place pour écraser les gens. C'est vraiment assez... Ouais. C'est horrible, quoi.
Mais c'est vrai qu'on entend en France beaucoup moins parler de cette oppression de l'Empire soviétique.
C'est ce qui m'a choqué aussi quand je suis venu en France.
Est-ce que tu as une musique pour ponctuer cette chronique?
Oui. C'est une chanson des années 99.
Des années 99 en juin le 24.
qui emploie les motifs de la musique lituanienne traditionnelle. Mm-hmm. Mais il n'y a pas beaucoup de mots dans cette chanson, justement.
C'est beaucoup de musique.
Beaucoup de musique.
On écoute tout de suite. Waouh! Il y avait de la vocalise hein, quand même. Hein. J'ai entendu
Il y avait quelques mots, effectivement.
Merci, Ruta, pour ta chronique qui recentre un petit peu le débat de cette émission qui était un petit peu partie en sucette avec mes deux amis masculins à gauche.
Il y a des tragédies méconnues et c'est pour ça que l'écriture est là et que les écrivains sont là. Pourquoi on brûle des livres? Parce que justement, quand on veut effacer l'histoire, quand on veut effacer, et surtout, les totalitarismes n'aiment pas les livres parce que dans un livre, on ne va jamais écrire 10 personnes se sont levées, 10 personnes sont allées là. C'est toujours très individuel, pas individualiste, hein, mais c'est toujours une histoire individuelle, particulière, c'est toujours une personne. On ne va jamais écrire 500 personnes sont allées là, puis ils sont allés là durant 500 pages. C'est toujours l'histoire de quelqu'un.
C'est ça.
Voilà.
C'est plusieurs histoires qui constituent une grande histoire du monde.
Mais voilà, exactement.
On va donner maintenant la parole. On va te redonner la parole, Denis.
Merci.
Merci. Puisqu'on va parler de la Croatie.
Il ja skoro prosjak, duh slobode širim, pa i nemo na svom grobu svijeću, ja neću da se smirim. Kao svježi vjetar u sparinu pirim, na otpor trubim, ja trubač sa scene. Moi, presque un mendiant, je déploie l'esprit de liberté. Et même si je dois manquer d'une bougie dessus ma tombe, jamais ne me tairai. Comme un vent frais qu'on étouffe, quand la paresse est terrassée, j'appelle moi à la résistance, je suis le clairon de la scène. C'est un extrait, merci beaucoup, c'est un extrait qui me touche beaucoup, auquel je pense parfois quand il y a eu les attentats à Paris aussi. Mm-hmm. C'est Dobrica Cesarić qui l'a écrit, ça s'appelle Le clairon de la Seine, Matoche à Paris. Matoche est un écrivain qui a vécu au début du siècle, qui était un déserteur, qui fréquentait les cercles anarchistes, mm-hmm. et qui a vécu quasi clochardisant à Paris, un poète très noir, un peu poète maudit. Mm-hmm. Il a donné une nouvelle renaissance à la littérature croate.
D'accord.
Et ce texte-là est vraiment très important pour l'émigration croate. C'est un peu une hymne, c'est un peu l'hymne de l'émigration croate. À Issy-les-Moulineaux, il y a un banc à l'hôpital d'Issy-les-Moulineaux, au jardin des Mille Roses. Mmh. Et il y a un banc avec Matoche dessus. Il a été offert en 2014 par un sculpteur. Et il y a exactement le même à Zagreb, à Strossmayer. C'est un très beau banc où on voit Matoche assis dessus. Alors les gens s'assoient et peuvent prendre des photos et quelque chose. C'est très emblématique.
C'est où, Issy-les-Moulineaux ?
C'est un.
Tu arriverais situé ou pas du tout ?
C'est le jardin des Mille Roses à l'hôpital Corentin Celton.
D'accord.
Voilà. Alors quand tu m'as dit qu'on allait parler d'écriture, moi je pensais qu'on allait parler écriture.
C'est-à-dire
écrire, l'art d'écrire, écrire à la main.
La calligraphie.
Voilà, écrire à la main, c'est pour ça.
On a tous compris différemment. Oui, Romain a compris le foot.
Quand tu m'as...
En chair encore, hein, même s'il y a une fille qui est là, c'est incroyable.
Elle ne te lâchera pas.
Parce que pour moi, écrire sur un ordinateur, écrire sur un téléphone, ce n'est pas écrire. Pour moi, écrire, c'est quand on prend la main et on écrit, ou la calligraphie. Mmh. Je trouve ça très beau. Mmh. Et en plus, c'est comme une suite de la main. On écrit. Mmh. Alors, en Croatie, du 12e au 19e siècle, on avait un alphabet qui était l'alphabet glagolitique, qui a peu à peu été remplacé par l'alphabet latin.
Glagolitique ?
Glagolitique. Quand on arrive à la cathédrale de Zagreb, il y a tout un mur écrit en alphabet glagolitique. Et à Reims, il y a un missel sur lequel les rois de France prêtaient serment. Mmh. Et il est écrit en glagolitique croate, ou du moins une partie. C'est assez surprenant, on ne sait pas très bien comment il est arrivé là-bas. Alors moi, j'ai amené vos prénoms en glagolitique.
Ah, voilà, c'est ça, c'est pas un vieux papier voilà. A4 alors, avec des formes bizarres, voilà, c'est des lettres.
Non, ce n'est pas des formes bizarres, monsieur.
Excusez-moi,
alors,
monsieur.
Tu vas passer à Ruta, le sien.
Ah, ça, c'est Ruta, ça.
Oui, ça, c'est Ruta.
Je l'aurais deviné.
Tout à l'heure, on prendra des photos.
Ah,
hein,
mais
s'il
y a
vous...
quatre signes, très bien.
Bah oui, il y a Ruta.
Ruta.
Casimir.
Ça ressemble à Casimir.
Oui, ça ressemble à Casimir. Ça ressemble à Casimir. Non, mais c'est clairement Casimir.
Et Ruben.
Alors excellent, parce que derrière il y a Pierre Alexandre qui enregistre l'émission avec nous là et qui nous montre son nom. Ça prend 2 pages à peu près. Ah, là, très drôle là, c'est excellent ça. Donc ça c'est notre. Alors dans quel sens? Parce que t'as pas mis de flèche.
Ah non, alors, non, coup, ah non, là il est à l'envers là. Oui, c'est comme ça.
C'est comme ça, d'accord. Oui, comme ça. Ah oui, d'accord.
Et okay. Les mains, c'est bon.
Attends, faut que je mette mes lunettes. Ah. Non, c'est à l'envers aussi.
Ah ok.
Voilà, c'est comme
et
ça.
Voilà,
ça c'est le R.
On lit dans quel sens en croix? De gauche à droite?
Non, c'est voilà. C'est...
De bas en haut? Non, en diagonale?
Non,
comment
non,
on fait?
C'est normal.
C'est normal. C'est comme, voilà. Comme en Syrie.
Alors il y a un revival du glagolitique. Mm-hmm. On le réapprend aux enfants. Et je trouve que c'est bien parce que quand on voyage maintenant, on arrive à une place, on se retrouve avec Zara, McDo, Starbucks, tout écrit pareil. Et je trouve que c'est bien. Et par exemple, c'est bien si vous voulez vous faire un tatouage. C'est la mode en Croatie.
Ah.
Si vous avez une idée de tatouage, voilà.
Ah bah Casimir. Moi, je vais mettre Casimir sur le pectoral. Bah. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème?
Pierre-Alexandre, ça doit être le long de son corps, je pense.
Ça va être tout son corps, Pierre-Alexandre.
Non, mais il peut mettre PA.
Ah, ça, c'est,
ouais, c'est ça.
PA, donc, c'est un alphabet qu'on n'utilise plus. Hein. Mais à l'école, on est en train de le réapprendre, surtout sur la côte d'Almate.
Et on peut taper au clavier avec.
Alors, il existe, oui, ouais. Ils l'ont mis sur Word, Unicode, ou je ne connais pas très bien les codes.
Ah oui, quand on fait des polices un peu particulières,
voilà, exact.
Sur du croate, en fait.
Voilà, d'accord. On peut.
C'est
on
quand
peut.
Même assez loin de savoir, le cyrillique ça. Aussi. Hein.
C'est avant le cyrillique, il me semble. Enfin, il y a les historiens se battent un peu pour savoir qui était avant. C'est un peu l'œuf et la poule. Hein.
Et c'est une phrase, enfin, un son, une lettre.
Oui, comme oui. En... Mais c'est exactement les mêmes, hein, c'est A, B, C, D, sauf que
c'est. Ah,
oui,
c'est pareil.
Oui, oui, oui.
26 caractères.
Voilà.
D'accord.
Parce que les R, par exemple, ressemblent énormément au B, B cyrillique.
Oui, mais ça n'est pas le même.
Ok, pardon. Rien dit.
Est-ce que tu peux nous les lire la même lecture ? Non, tu ne peux pas les lire.
Alors, moi, je ne les connais pas très bien, mais à force de faire vos prénoms, je commence à retenir des lettres. Et le mien. Mais, par exemple, tu vois le N espagnol, tu mets un petit symbole dessus, ça fait Nye.
Oui.
Alors, ces lettres-là, en fait, elles étaient plus pratiques pour le croate. Aujourd'hui, quand tu as l'alphabet latin, par exemple, le C, on a trois C. On a le premier C qui se dit Ts, le deuxième C où tu mets un petit accent dessus qui se dit Tche. Et si tu fais encore un C avec un accent circonflexe à l'envers, ça fait tche. Non, mais sur les lettres latines. Ça c'est l'alphabet glagolitique. Okay. Et cela, c'était automatique, donc c'était plus facile pour écrire le croate.
D'accord. Donc là, tu ne peux pas dire Casimir, là.
Ah, si. Mais sauf que là, j'ai mis un tse. J'ai respecté l'écriture de ton, ton prénom.
Le respect, bien sûr.
Donc c'est tse-a-se-i-me-ir Casimir. Mais je n'ai pas mis un que, j'ai respecté le C.
D'accord.
Voilà.
C'est un petit cadeau que tu nous as fait alors. Petite surprise cadeau. Oui.
Casimir, qui est le saint patron de la Lituanie. Hein.
Oh, c'est un petit détail.
Le patron
hein.
de la Lituanie.
Oh, oui. Je ne voulais pas te le dire, Ruta. Je ne regarde pas comme ça. Je ne voulais pas t'en parler parce que j'avais peur que tous tes compatriotes viennent me voir. Enfin bref, je ne peux pas gérer tous les pays du monde. Tu as encore quelque chose à nous. Une petite dernière surprise.
Alors, moi, comme c'était l'écriture, je me suis dit, je vais élever le niveau très haut.
Waouh ! Il va élever le niveau, pas du tout.
Alors, attention.
Je
ne sais pas si vous comprendrez toutes les références, mais on a parlé d'écriture, ça sera un peu du Bukowski. Hein.
Bukowski.
Ouais, c'est très haut.
C'est du Bukowski. C'est vas-y.
Bah, c'est le type qui buvait 3 bouteilles de whisky, 50 bières.
Et
après, il se mettait à écrire. Donc là, il faut suivre. Alors moi, depuis que je vous connais, j'essaie un peu de connaître vos pays, etc. Alors, je vais d'abord parler de Ruta.
Oh, l'écrivain. Oh, délice l'écrivain. Allez, vas-y, lance-toi.
Alors, Ruta est la Lituanie, ce que j'ai appris sur la Lituanie. C'est un petit pays balte, mais avec 4 capitales. Kernavė, Trakai, Kaunas et Vilnius. Rien que ça. Mais c'est normal, parce qu'il faut savoir que la Lituanie est 261 fois plus petite que la Russie. Et... c'est là où je vais te dire quelque chose, Ruta.
Oui.
Toi et moi, on vient de petits pays. Mmh. Au grand pays, la quantité. Au petit pays, la qualité.
Qu'est-ce que c'est beau.
Magnifique. Voilà. Bravo.
C'est l'art d'écrire.
Ça m'a touché.
C'est l'art d'écrire.
Et Ruben, mon ami que je connais ici depuis quelques mois. Quand je retire mes lunettes, en fait, moi, j'ai l'impression d'être avec Cruyff. Et maintenant, j'imagine les Pays-Bas remplis de 17 millions de Cruyff qui crient Passir des balles, Sniller, it is in a hazard school here, niet des champs. Et là, je comprends mieux la devise des Pays-Bas qui est Et lucor et emergo, je lutte et j'émerge des eaux. Parce que vraiment, parler néerlandais, c'est un peu ça. Hein.
Non, bravo. C'était compréhensif
Parfait.
Oui, compréhensible.
Ouais.
Bah, bravo, Denis. Merci. Bravo.
Et on a aussi la France avec Casimir.
Ah.
Alors. Moi, je vais vous parler de la Bechel Tourangelle. Vous savez ce que c'est, la Bechel Tourangelle ? C'est une spécialité de Touraine. Rognon, riz de veau, crème fraîche, champignons. C'est
d'accord,
délicieux.
Ça se mange.
Et vous me demandez pourquoi je parle de ça ?
Oui.
Parce que c'est une histoire de désertification rurale.
Ok, d'accord, ça commence bien là. T'es sur moi, là. Oui, vas-y.
Alors, Pierre, il a quitté son petit village de Serré-la-Ronde. Il a préféré Paris à Serré-la-Ronde. Mmh. 451 habitants, vous pouvez vérifier sur Wikipédia. Ils ne sont plus que 450 parce qu'il est parti. Et Pierre de la régie est d'accord avec moi. Parfois, on peut préférer Serré-la-Ronde à Paris. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est d'accord avec moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui.
Et non, il n'y a pas de mots sur moi, là. Bah, ça me va très bien.
Bah, en fait, je viens de créer ta légende.
Ah non, pourquoi ?
Tu quittes avec ton petit baluchon, Serré-la-Ronde, tu montes à Paris.
Je ne connais pas cette ville, moi, monsieur.
mais justement, je fais ta légende.
D'accord. Bah,
la légende, le mot légende.
Oui, bah, légende, c'est inventé. On a lancé une légende, là.
Voilà.
Allez, c'est parti. C'est plutôt une rumeur qu'une légende pour l'instant. T'as une musique à nous faire écouter.
Oui.
Oui, alors dis-moi, c'est quoi ?
America.
Oh, c'est sur l'Amérique, les États-Unis.
Ouais. Mais parce que le type, il dit, je bois tellement que si on me laisse rentrer en Amérique, elle collapse en 2 jours.
Et bah, l'art d'écrire, c'est magnifique. Allez, on écoute.
sa ne pane, kad čovjek je tovar svemu smeta, ja bi sve potira. Sreća meni triba je manodi loze, grozje doće šoldi, tamo neki tu i neće mi da. Čuči, nal mi je vino, čini piš, otvori prešto piš, otvori prešto piš. Ja sam za čini štetu najbolji, sam blokac žmuli tri pice. Odu daj molu, oću cilo, politre crnoga pobilog, da mi sto jedne vidim dvi surice. Čuči, na mi je vino, čini piš, otvori prešto piš, otvori prešto piš. Ja sam za čini štetu najbolji, sam blokac.
America.
Pizza, pizza, j'ai entendu aussi.
Pizza, pizza.
Et ah, disons, ouais, pizza. Je suis en train de manger trois pizzas. C'est vrai ou pas?
C'est ça?
Ça, c'est un mot qui peut être un peu tendancieux en croate.
Bah oui, là, il est mort de rire. Il est tout rouge, Denis. On n'a rien compris, mais lui, il est mort de rire.
Si j'ai dit encore une
si
fois,
c'est pas mangé pizza. Trois, c'est grave.
Ah d'accord, d'accord, ok, ok. On va passer à autre chose. On va faire un
à la censure, la tension entre présentateur et censeur.
Oh,
la...
Bon, alors qu'est-ce que c'est, pizza, pizza, pizza?
Non, je vais pas le dire, mais
on a compris.
Mais,
je allez, pense. Je pense qu'on a compris la, voilà. L'image. On a
mais,
l'image.
Mais pas de censure, s'il te plaît.
Ah non, 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 pas de censure.
Tu savais qu'en ex-Yougoslavie, tout ce qu'on écrivait sur le corps était interdit. Parce que le lit, c'est là où on meurt, c'est là où on fait l'amour.
Attends, sur le corps, on écrit sur le corps comme un tatouage ou...
Non, sur le corps, dans l'écriture. On parlait de l'écriture et c'est vrai qu'il y avait une censure là-dessus. Hein. Écrire sur le corps, c'était interdit.
On passe au petit jeu ?
Allons-y.
Allez, alors, le petit jeu, un petit quiz littéraire. Première question. Alors attention, parce que là, je sens que vous êtes au taquet. En quelle année l'écrivain William Shakespeare, auteur de...
Hamlet.
Entre autres.
Othello.
Othello. Est-il mort? Il est mort en quelle année? William Shakespeare.
Il n'y a pas de choix.
J'ai des propositions.
Okay.
Mais déjà, j'attendais que
1638.
Quelqu'un me dise, oh, c'était le. Alors, non. Alors, les propositions 1576, 1596, 1616, 1636.
36.
36 pour Denis. 16. 16 pour Ruben.
Moi, j'ai du mal avec les chiffres en français.
Ouais, d'accord.
Avec les dates.
Avec les dates.
1900, 1600. Enfin.
Bon, alors du coup, c'est Ruben qui a la bonne réponse, puisque c'est 1600. 1616.
Merci, Shakespeare.
16. Comme ça, vous vous en souviendrez toute votre vie. 1616, l'année de la mort de William Shakespeare. Dans quel pays est né Bram Stoker?
Ah, Dracula.
Oh oui, merci, auteur de Dracula, c'était
mais
ça,
Dracula
c'était le petit piège.
Dracula est romain, mais, le, il est mais né, l'écrivain n'est
il
pas
est
allemand.
Né au Royaume-Uni, ah. Il est né en Autriche, il est né en Roumanie ou il est né en Irlande.
Allez, Autriche.
Irlande.
Roumanie.
Autrichien.
En Irlande. Ah. Et Denis, si tu connais t'es Dracula, toi.
Ouais.
Bravo. Alors, la dernière, c'est une citation. Qui a dit... La plume est la langue de l'âme. La plume est la langue de l'âme.
François Hollande.
Non. On l'a peut-être dit, mais c'était après la musique de Denis sur l'Amérique. Alors, c'est Victor Hugo, c'est Miguel Cervantes, c'est Oscar Wilde ou c'est Emmanuel Kant?
Hugo.
Oscar Wilde.
Je dirais aussi Victor Hugo.
Cervantes, les amis. Oh. C'est un Espagnol qui a dit ça. Et oui, l'auteur de Don Quixote de la...
C'est trop de sirop pour moi.
Bah écoutez, c'est bon, on est fini. Magnifique, bravo. Merci beaucoup, les amis. Merci pour, pour tous vos textes. C'était sublime. Quelle émission. Vous pouvez nous suivre sur Deezer, iTunes ou SoundCloud en tapant L'Europe est une fête. Bien sûr, sur le site de Radio Grande Contrôle, sur Facebook. On est partout. Merci les gars. Merci à tous. Merci Grande Contrôle. Merci Mafé qui n'est pas là. Merci Mathilde et Charles. Et merci à PA. On se dit au revoir dans toutes les langues, les amis.
Peut-être encore un tout petit mot pour la pièce de notre chère amie Carla.
Oui.
Carla Bianchi qui est chaque mardi soir.
Et ça, c'est ça, tous les mardis soirs au théâtre Montmartre-Galabri. Carla, qui représente l'Italie dans notre émission. Son spectacle s'appelle Migrando. Ça parle des migrants. Ça parle pas vraiment des migrants. Il y a une mise en scène. Il faut aller voir.
Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment très sympa.
C'est amusant. Même si on pensait qu'on pouvait pas rire avec les migrants, en fait c'est un très bon spectacle, je vous le recommande. On se dit au revoir dans toutes les langues cette fois-ci. Oui. Ah, vous êtes prêts? 1, 2, 3.
Au revoir.
Salut à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.